Voilà, bonsoir. Je suis heureuse de voir que le froid ne vous a pas empêché de venir ce soir. Et je me réjouis beaucoup d'accueillir Alain Cugnot pour cette soirée. Alain Cugnot est un des enseignants de la faculté et je suis très heureuse que cette soirée lui soit consacrée, enfin qu'il nous donne l'occasion de réfléchir à un sujet très important. Je redonne son titre, « Les fondements de la justice pénale sont-ils en train de changer ?» Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous connaissez Alain Cugnot, mais je rappelle quand même l'un ou l'autre de ses livres, pas nécessairement liés à la question de la justice pénale, mais il s'intéresse beaucoup à la mystique, notamment, donc, nous avons un livre sur Saint Jean de la Croix, paru en 1979, au cœur de la raison, raison et foi. Bon, mais Alain, tes sujets sont tellement variés que le titre suivant s'intitule « L'air ». Le suivant, « L'existence du mal ». Donc vous voyez que la blessure amoureuse, essai sur la liberté affective. Celui de 2009, « De l'angoisse à la liberté, apologie de l'indifférence ». Et quant au tout dernier, à ma connaissance, mais peut-être que tu n'as pas actualisé ton site, la libellule et le philosophe. Donc vous voyez que les intérêts d'Alain sont multiples. Outre cela, il est rédacteur en chef de la revue Prison Justice. C'est évidemment essentiellement à ce titre et au titre de sa fonction de philosophe, de sa profession de philosophe qu'il va nous parler ce soir. Et il me semble qu'il y a très longtemps que tu t'es engagé dans cette réflexion et cet accompagnement au niveau de la prison. Donc, je suis très heureuse de te donner la parole ce soir. Il est évident que là, il y a eu des réformes importantes récemment, notamment en 2014, autour de la contrainte pénale, et beaucoup d'autres choses que tu vas nous dire. Et donc, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Oui, ça marche. Et oui... Donc, je vais essayer de parler d'une évolution, me semble-t-il, extrêmement profonde qui se produit actuellement. Je ne suis ni historien, ni juriste, mais ça fait plus de 20 ans que je m'occupe de ce genre de questions. Et le point de départ de ma réflexion n'a pas du tout été sur le droit, mais sur la prison, parce que j'avais été convoqué à un colloque sur l'emprisonnement des jeunes majeurs par un directeur d'association. Je n'y connaissais rien, mais il m'a dit « j'ai besoin d'un philosophe pour ce colloque ». Donc j'ai dit oui, parce que je crois que je ne sais pas dire non. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette interrogation. Sur c'est quoi, enfin qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce qui se passe dans l'exercice de la justice pénale. Je suis même devenu président de cette association qui m'avait invité. Ensuite, je suis passé à la fédération des associations Réflexion, Action, Prison et Justice, et j'ai le plaisir de voir que l'un des anciens présidents et des plus remarquables, se trouvent dans la salle. J'appartiens également à un groupe de réflexion qui s'appelle « Dès maintenant » et j'ai des liens assez étroits avec l'Association française de criminologie. J'ai appartenu aussi à une commission de l'administration pénitentiaire. Et dans cet engagement, si je vous raconte ça, c'est que dans cet engagement, trois choses me sont apparues assez rapidement. Tout le monde, administration pénitentiaire comprise, semblait résolument vouloir améliorer, humaniser les prisons. Mais personne n'avait l'air d'être au clair avec le sens de la peine, qui était pourtant l'objet de... une multitude d'articles, de livres, de colloques Certains même se sont tenus ici au Centre Sèvres, en particulier en liaison avec l'École nationale de la magistrature. Donc ça s'accompagnait d'un troisième trait qui était que l'amélioration escomptée du sort des personnes détenues à la fois se produisait bien, c'est incontestable, il y a une amélioration, mais en même temps a été complètement ruinée par une foule d'obstacles dont l'origine était en gros, mais en gros seulement, le souci sécuritaire et la surpopulation. L'hypothèse a été que l'échec partiel de cette bonne volonté, évidente, venait de l'incapacité d'avoir une doctrine claire concernant la peine, concernant la sanction pénale, et c'est donc principalement dans cette direction que, au comité de rédaction de la revue Prison Justice, nous avons investi nos efforts en vue d'essayer d'y comprendre quelque chose. Il fallait donc remonter pour y comprendre, y opérer quelque chose, il fallait remonter jusqu'au principe même de la justice pénale. Et là, eh bien, nous avons découvert qu'il y avait trois auteurs incontournables, réellement incontournables. Le premier de ces auteurs, c'est Aristote. Il définit génialement ce qu'est la justice comme étant, d'une façon tout à fait générale, l'instauration de l'égalité là où elle n'est pas. La justice distributive n'est rien d'autre que ce qui se joue dans l'égalité entre l'architecte et le cordonnier, dit-il. L'un échange avec l'autre des maisons contre des chaussures, révélant ainsi une égalité entre eux, mais il n'y a que des amis qui sont égaux, et par conséquent constituant par l'échange même non pas un acte commercial, mais un acte politique, d'amitié politique, de filia. D'autre part, et du même mouvement, Aristote définit la justice corrective, la justice pénale, comme la reprise d'un excès de pouvoir, le rétablissement d'une égalité là où elle avait été rompue. Ce qui est très remarquable également, c'est qu'Aristote, alors que cela même a été remis ensuite en question, mais toujours on est revenu à la position d'Aristote, Aristote remarque que le droit ne peut pas exister, la justice ne peut pas exister s'il n'y a pas la personne du juge. Il n'y a pas d'application automatique possible d'un texte de loi. Le juge se caractérise par trois traits. Il est mandaté par la cité, il connaît les lois et il a un habitus de juge. Il n'y a que lui, il n'y a qu'un homme qui peut subsumer un cas particulier sous une loi générale par un acte, celui de l'arrêt rendu, qui non seulement dit le droit et le rend efficace, mais doit en plus être équitable, c'est-à-dire améliorer la loi par son application. Une fois l'arrêt rendu, la loi doit être plus claire, plus riche, plus compréhensible. Je connais rien de plus génial que cette proposition ou cet ensemble de traits, et on peut poser comme premier point que on ne s'en passera jamais. On ne dépassera jamais Aristote sur ce point. Le second auteur fondamental, et dont nous ne pourrons pas non plus nous séparer, c'est Hegel. En particulier dans les principes de la philosophie du droit, donc publié en 1821, où Hegel établit que la justice pénale appartient à ce qui relève de l'objectif, de l'objectivité. En entendant par objectivité quelque chose de très riche, ce qui est objectif, ce qui n'est ni à toi ni à moi, que nous ne pouvons pas modifier selon les mouvements de notre cœur. Ailleurs, Hegel dit, celui qui dit qu'il traite autrui selon son cœur, dit qu'il le maltraite, et qui est ce qui est ni à toi ni à moi, et qui se tient entre nous, pas au-dessus de nous, pas en dessous de nous, pas à notre disposition, mais entre nous. Autant dire que la justice pénale appartient à la rationalité, au sens où il est écrit dans le même texte, cette formule si mal comprise, tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. Ce qui veut dire tout ce qui est réellement existant relève de la raison. Et tout ce qui relève de la raison, ce n'est pas simplement ce qui existe, mais ce qui existe complètement, ce qui existe réellement. Une telle prise de position n'interdit pas du tout une évolution. Bien au contraire. Et c'est dans le même texte que Hegel dit que la philosophie, sa philosophie, la philosophie hegelienne, est comme l'oiseau de Minerve, la chouette, qui ne sort qu'au crépuscule quand les choses sont terminées. Autrement dit, Hegel dit, la philosophie hegelienne, elle est finie. Et elle est finie, elle ne peut éclairer que ce qui est déjà parvenu à son terme. Ce qui va surgir maintenant, nous n'en savons rien, dit-il. Ceux qui prétendent dire ce que va être l'histoire ne savent pas ce qu'ils disent. Tout ce que l'on sait, c'est que ce qui a été complètement réel et donc rationnel maintenant sera sous une forme ou sous une autre présent dans ce qui va venir. Mais le trait proprement indépassable, ce sur quoi nous ne devons pas céder, c'est l'affirmation que la sanction pénale est l'accomplissement du droit, la réconciliation du droit avec lui-même, dans la puissance de l'État, et qu'à ce titre, elle ne traite le condamné, je paraphrase mais de très près le texte, ni comme un animal nuisible qu'il faut détruire, ni comme quelqu'un qu'il faut intimider, ni comme quelqu'un à amender ou à édifier, et sûrement aujourd'hui c'est le point du texte que nous aurons le plus de mal à avaler, ni à amender ou à édifier, mais comme producteur de droit, jusque dans l'exécution de sa peine. C'est évidemment pour nous une pierre d'attente pour une possible évolution et une possible compréhension autre de la justice pénale. Troisième auteur qui lui aussi marque les bornes au-delà desquelles on ne pourrait plus parler de justice pénale, c'est Durkheim, qui a fondé la pensée anthropologique en ce domaine en disant que on appelle crime ce que les sociétés punissent. Les sociétés ne punissent pas ce qu'elles appellent crime, elles appellent crime ce qu'elles punissent. Le retournement est extrêmement fondamental. Autrement dit, la punition est l'organe de perception du crime dans une société donnée. Autrement dit encore, si vous parvenez à supprimer la punition, il y a un risque énorme que vous fassiez disparaître en même temps la possibilité de distinguer le crime de ce qui n'est pas lui. Restera alors la seule dangerosité. Mais nous sommes tous dangereux. Ou encore, participe de cette dérive possible, la rétention de sûreté, qui permet de retenir un criminel qui a fini sa peine, pour un crime qu'il n'a pas encore commis, mais qu'il pourrait commettre. Dangerosité et culpabilité sont ici complètement confondus, parce que, et j'en suis intimement persuadé, la notion de punition, nous n'osons plus l'articuler. Alors, l'hypothèse que je voudrais défendre ce soir, c'est que les principes fondamentaux de la justice pénale évoluent, mais qu'ils demeurent en leur essence, tout en permettant des avancées inouïes, et peut-être l'espoir d'une véritable politique pénale, sans préjuger du tout, bien sûr, des courants tout à fait contraires et opposés qui existent aussi dans notre société. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Non, mais je voudrais signaler quelque chose qui bouge et qu'il faut donc accompagner. La première analyse à mener, pour y comprendre là aussi quelque chose, concerne bien sûr la punition elle-même, car c'est elle qui est la clé de voûte. Alors, à défaut de pouvoir dire clairement quel est le sens de la peine, il est possible de faire apparaître, peut-être, son essence. Et dans cette essence, il y a la souffrance qui joue un rôle fondamental, et c'est assurément ce qui bloque tout, qui fait par-dessus tout question. La donnée la plus archaïque que nous puissions déterminer, dégager, se résume en effet à dire que la punition consiste à faire souffrir quelqu'un parce qu'il a transgressé les lois écrites ou non écrites d'une société ou d'un groupe. Ce lien entre ces deux moments, la transgression et la souffrance, semble curieusement aller de soi. D'une manière schématique et archaïque, quelque chose de sacré, autrement dit d'absolu transcendant, a été offensé, et il importe de réparer l'offense en infligeant une douleur au transgresseur. C'est quand même curieux. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas la logique de la vengeance, parce que le sacré offensé est bien trop puissant pour entrer dans cette logique de la vengeance. C'est peut-être celle, plutôt, de la colère. La justice, la conviction de la justice comme colère, dies ira, dies illa, chantait-on au Moyen-Âge pour annoncer l'accomplissement de la justice. Voilà la racine archaïque avec laquelle il faut arriver à se battre et à se déterminer. Alors il y a belle lurette que nous ne croyons plus au Dieu, et pourtant tout se passe comme si nous y croyions encore. La transcendance de l'État s'étant substituée à la leur. Le lien entre transgression et réparation par la souffrance semble toujours aller de soi, n'est que très rarement remis en question, même par ceux qui le contestent, puisqu'ils ne manquent jamais de faire remarquer que les solutions qu'ils proposent, en lieu et place de la douleur infligée, ne sont pas drôles et, rassurez-vous, font bien souffrir ceux qui leur sont soumis. Cependant, ce premier déplacement de la transcendance du divin vers le politique permet de faire apparaître, enveloppée dans la logique de la colère, une autre logique plus fondamentale et peut-être plus manœuvrable, qui est celle de la dette. Une dette, ça se rembourse. Mais ici, la dette dont il s'agit, et le paiement de la dette ne consiste pas à rendre ce qui a été pris, mais payer, et plus précisément payer pour, aux deux sens du terme, payer pour la transgression et payer aussi pour les autres qui n'ont pas été pris et restent impunis. Au moins celui-là, nous le tenons, il paiera. Comme si l'acte qui a été commis devait provoquer une quantité déterminée de souffrance offerte au vide, au rien, puisque nous ne pensons pas que l'État se satisfasse de la peine subie par les condamnés. Voilà, c'est ce nœud hein, qui constitue le point de résistance le plus fort, l'instance archaïque la plus consistante. Alors il faut se demander, mais que paye ? Que règle donc la souffrance infligée ? Parce que c'est bien de souffrance qu'il s'agit. Hein. Si vous prenez les choses d'une manière apparemment rationnelle, vous direz, la peine la plus simple à comprendre, la plus logique en apparence, ce serait la peine de mort. Celui qui a transgressé gravement les règles de la communauté doit être détruit, ou si sa qualité l'interdit, doit être banni. Et certes, ces deux peines existent de façon fort ancienne. Mais si l'exil correspond à l'idée que l'on s'en fait, en revanche, sauf depuis une époque extrêmement récente, à toute fin du XVIIIe siècle, la peine de mort s'accompagne de supplices affreux. Quelque chose d'autre, donc, que l'élimination est en jeu, et c'est là où gît l'énigme la plus énigmatique. Nietzsche a proposé une interprétation. Je suis pas sûr que son interprétation soit la bonne jusqu'au bout. Nietzsche voit dans la douleur infligée, c'est dans la généalogie de la morale, d'une part un puissant moyen mnémotechnique lié à l'invention de la promesse et du contrat. Inscrire dans le corps la mémoire afin de rendre l'oubli de ce qui a été institué impossible, interdire de pouvoir faire comme si de rien n'était une raclée dont tu te souviendras. Je vous signale ces tableaux du XVIIe siècle, représentant des mères de famille battant leurs enfants devant la porte des chaumières pendant que passe la chaîne des forçats. Ils n'ont rien fait, les gamins, mais on leur flanque une raclée pour qu'ils se souviennent, quand on leur dira « tu finiras aux galères », ce que ça veut dire. D'autre part, dit Nietzsche, la jouissance offerte à l'offensé de faire souffrir à son tour, sans remords ni culpabilité, et qui nous remarque, dit Nietzsche, que tout ce qui est interdit est précisément ce qui s'accomplit ou s'est accompli dans l'exécution de la peine, tué, torturé, séquestré, etc. Cette jouissance étant, au cours de l'histoire, déléguée vers le bourreau. Si le lien avec le contrat et la promesse semble avéré, en revanche, celui à la jouissance est beaucoup moins convaincant. L'hypothèse que je risquerais plutôt, ce serait, tout au contraire, fondée sur l'intuition de René Girard, la communauté inquiétée par le crime se ressoude et se compromet en assassinant l'infracteur ou celui qui a été désigné comme bouc émissaire, et dès lors, en effet, on peut payer pour un autre. Ce qui est donc intéressant dans le supplice, et je crois que c'est un point extrêmement important, ce sont bien les souffrances, non pas au titre de la jouissance sadique, mais tout au contraire, en tant que personne d'autre que le supplicié ne les subit. Personne n'entre en empathie avec lui, ses souffrances sont l'objet d'un gigantesque déni, et c'est lui, ce déni, qui ressoude la communauté tout en la compromettant, puisqu'il s'agit bien d'un déni et non pas d'une simple inconscience. Nous savons, et maintenant que nous avons tué, nous sommes liés. La condamnation marque une exclusion, un hors-champ, une frontière matérialisée en son effectivité par la réalité de la peine. Quant au condamné, si c'est bien lui qui a payé, il n'a nullement payé pour lui-même et son rachat. Tout au contraire, dans le cas où la peine le laisse vivant, il reste marqué, stigmatisé, et s'il est mort, il est enterré à part, loin des morts dignes de ce nom. Et il a beau clamer qu'il a payé sa dette, personne ne le croit, car ce n'est pas sa dette qu'il a remboursée, mais celle constituée par le crime qui a été commis par lui ou d'autres d'ailleurs. toute communauté fonctionne plus ou moins sur ce modèle, et il nous paraîtrait très imprudent d'affirmer que nous échappons aujourd'hui tout à fait à ce schéma. Cependant, nous ne sélectionnons plus nos boucs émissaires comme le faisaient les sociétés dites archaïques en fonction de leur rang social. On tue le roi de temps en temps. Ou habile stratégie parmi les prisonniers de guerre qu'on a spécialement fomentés pour pouvoir en capturer. Nous les choisissons en fonction de leur mérite, enfin, de ce qu'ils méritent, au vu de ce qu'ils ont commis. C'est là où l'intuition nietzschéenne peut retrouver sa pertinence. Il n'y a pas de système pénal ailleurs que dans les sociétés qui connaissent aussi le contrat et la promesse, c'est-à-dire la nécessité de se souvenir. Une affaire de mémoire à inscrire dans le corps, avec deux entrées pour ce lien. La première n'a pas de rapport avec la pénalité, puisqu'il s'agit d'infliger une souffrance afin qu'elle fasse date et demeure inscrite. Ainsi, dans beaucoup de sociétés, les rites d'initiation, nous ne connaissons plus cela, enfin, si sous les formes atténuées, le bizutage. Et vraiment, tout à fait le même fonctionnement. Et puis aussi, j'ai vu certaines soutenances de thèse qui étaient de cet ordre-là. En revanche, nous connaissons très bien encore aujourd'hui la menace de souffrance infligée afin de protéger ce qui a été promis, contrat ou obéissance à la loi. C'est ce qui fait facilement croire que cette menace est là pour dissuader de transgresser, ce qui n'est pas faux, mais cela ne correspond pas à l'essence de la peine. On ne réduit pas la criminalité par l'augmentation de la sévérité des peines, ce qui ne manquerait pas de se produire s'il y avait un lien et si telle était son essence. La sévérité de la peine a une autre fonction, témoigner de l'accord d'une communauté politique sur la gravité, l'échelle de la gravité de certains actes. Il s'agit de garder présent à l'esprit que tous nous sommes d'accord, non pas en tant que cet accord serait simplement verbal, mais attesté par le fait que nous sommes capables de rejeter dans les ténèbres extérieures de souffrances que nous n'avons pas apportées, ce qui tenterait de nier cet accord. Il me semble que cette hypothèse est corroborée par un certain nombre d'indices qui existent encore de nos jours, témoignant de ce rejet dans une extériorité absolue et non portée, non accompagnée par la communauté, le sentiment si répandu que les condamnés, après ce qu'ils ont fait, n'appartiennent plus à la communauté politique, n'y ont plus que les droits que l'on veut bien leur restituer. En témoigne aussi la propension de la prison à disparaître du champ de vision des riverains. Il y a de très intéressantes études sociologiques qui montrent que les voisins d'une prison ne la voient plus. De même, le sentiment que nous avons d'avoir vu ce que l'on ne devait pas voir, d'avoir vu quelque chose qui relèverait presque de l'obscénité lorsque nous croisons dans une gare ou dans un train un homme menotté entre deux gendarmes. On n'aurait pas dû voir ça. Il devrait être dans cet espace totalement extérieur dont nous nions même l'existence, tout en sachant bien sûr qu'il existe. Et puis enfin, la sanction se déploie en effet avec cette violence, non pas sur celui qui transgresse la loi, comme telle, mais sur celui qui veut nier l'accord sur elle, puisque de tradition immémoriale, là où la loi est transgressée par force majeure ou par folie, il n'y a ni crime ni délit, comme le disait si fortement le tant regretté article 64 du Code pénal. Donc si ces analyses ne sont pas fausses, alors nous pouvons dire qu'en son essence, la peine est infligée dans une parfaite extériorité, afin que la communauté politique se ressaisisse autour du consensus qui la fonde, précisément à travers son insensibilité à la souffrance infligée. Or, ça, si vous voulez, c'était d'une certaine façon une première partie. Or, la cohérence de cet ensemble, même s'il est encore très présent, plus présent qu'on ne voudrait croire, cette cohérence s'est déplacée. Très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, peut-être plus tôt encore, il y a un double mouvement d'humanisation des peines et de volonté de récupérer, de réinsérer, de ramener dans le droit chemin celui qui s'en est écarté. Ainsi la guillotine, la promotion sociale par l'exécution. On pendait les roturiers, on décapitait les nobles, on décapite tout le monde. En plus, de manière humaine, puisque, comme le dit un texte qui est, je crois, de Guillotin, mais je n'en suis pas sûr, le condamné éprouvera tout au plus une grande fraîcheur sur la nuque. La peine devient aussi éducation, ainsi le panopticon de Bentham, enfin je ne vais pas vous raconter, Surveiller et punir, de Michel Foucault. Et puis on fait des cours de morale dans les prisons. On comprend la cellule comme le lieu de méditation, de retour sur l'acte commis. Autrement dit, deux traits fondamentaux ont donc cédé, ou plutôt craqué, puisqu'ils n'ont pas été complètement annihilés. Premièrement, l'absence d'empathie. Deuxièmement, l'extériorité marquée et absolue d'un territoire autre dans lequel se trouvent envoyés les condamnés. Geste d'expulsion qui se trouve encore présent à la racine même des Lumières, par exemple chez Jean-Jacques Rousseau, hein, celui qui a gravement rompu le contrat social en ne mettant pas en œuvre des lois qu'il a pourtant voulu, que la volonté générale a voulu en lui, et bien qu'il soit tué, comme en tant qu'ennemi de la République. Et ce qui marque vraiment le changement, l'apparition d'une nouvelle compréhension des fondements mêmes de la justice pénale, venant inquiéter l'essence de la peine et ce lien archaïque entre souffrance et justice rendue, paiement d'une dette en termes de douleur, dans l'horizon qui est le nôtre, ce sont trois traits. L'abolition de la peine de mort, l'invention de la contrainte pénale, l'accueil de la justice restaurative jusque dans la loi. Il faut comprendre ce passage, ce qui veut dire tenter d'en saisir l'essence, mais que s'est-il passé vraiment? Tenter de déterminer ce qui a été transformé dans les principes mêmes de la justice pénale, cette articulation entre l'application de la loi, la peine infligée, la punition donc, la production du droit dans l'exécution même de la peine par celui qui l'a subi. Autrement dit, Aristote, Durkheim et Hegel, que vous arrive-t-il? Étant donné quand vous vous gardez, absolument. Les deux paramètres qui ont été les plus affectés sont assurément la souffrance. Question, pouvons-nous dissocier la punition de la souffrance et l'extériorité? Que faire lorsqu'il n'y a plus d'extériorité absolue ou jeter les condamnés? Ce sont ces deux paramètres qu'il faut surveiller dans les modifications que connaît actuellement la justice. Pardon. Alors le premier point est donc l'abolition de la peine de mort dans l'échelle des peines en 1980, du moins en France, qui sur ce point d'ailleurs n'a pas été spécialement en avance. Ce que fondamentalement signifie cette abolition, à mes yeux, ce sont trois choses. D'abord, la disparition de notre champ de possibilité d'avoir des ennemis au sens que Carl Schmitt donnait à ce terme. Même la guerre, nous ne pouvons plus la penser sur ce modèle, et ce qui s'appelait il n'y a pas si longtemps gloire militaire est devenu crime contre l'humanité. Nous ne pouvons plus avoir d'ennemis, mais nous pouvons avoir des adversaires ou des opposants. Mais pas des ennemis. Encore que ce concept reste opératoire. C'est dommage, il n'a pas pu venir Pierre-Victor Tournier raconter que des discussions auxquelles il avait assisté au moment où il avait été question d'intégrer dans la même entité les forces de police et les forces militaires, et les généraux disaient, mais non, vous les policiers, vous avez des adversaires. Nous avons des ennemis. Vous avez des gens qu'il faut que vous accueilliez. Nous avons des gens qu'il faut que nous détruisions. Vous ne pouvez pas nous réunir dans la même entité. C'est parfaitement vrai. Mais d'une certaine manière, la manière dont on raconte la guerre, la manière dont on la mène, veut continuellement refuser le terme même d'ennemi. Ce sont des opposants, des adversaires. Ensuite, deuxième chose que montre l'abolition de la peine de mort, c'est une transformation radicale de la transcendance politique qui était encore très profondément marquée par une compréhension religieuse des réalités. À moins de considérer les êtres humains comme du bétail, vous ne pouvez pas les tuer, quoi qu'ils aient fait. Si dans le geste même par lequel vous les rejetez dans les ténèbres extérieures, vous ne leur supposez pas la possibilité d'un salut. Autrement dit, vous ne pouvez pas maintenir longtemps la peine de mort, sous la réserve déjà signalée, à moins de traiter les êtres humains comme du bétail. Vous ne pouvez pas maintenir longtemps la peine de mort si vous ne faites pas référence à Dieu dans la statue même du politique. À ma connaissance, les seuls pays à peine de mort reconnaissant aux individus une existence plénière, font explicitement référence à Dieu dans leur constitution. Voyez les États-Unis. Enfin, troisième modification, troisième bouleversement, une très profonde perturbation dans l'échelle des peines. De même que toute société détermine toujours ce qui est le plus grand crime possible pour elle. Ce fut longtemps le parricide. C'est maintenant la pédophilie, enfin le pédophile assassin. De même qu'elle fait cela, elle détermine toujours aussi une peine extraordinaire, rare et réservée aux plus grands crimes. Ce qui suppose aussi la distinction entre ce qui est refusé, les délits, et ce qui est abhorré, les crimes. Avec l'abolition de la peine de mort, nous nous sommes retrouvés sans peine extraordinaire. Et par conséquent, la prison qui aurait dû devenir cette peine, structurellement, est demeurée la peine de référence. Sans distinction, si ce n'est par la durée de la détention, aussi bien pour les délits que pour les crimes. Ce qui a eu quelques conséquences assez fâcheuses, comme par exemple de provoquer une confusion dans l'imaginaire politique entre crimes et délits, les incivilités pensées comme de petits crimes et les crimes comme d'énormes incivilités. Ou encore, je pense que c'est cette impossibilité de trouver une réponse pénale à la hauteur des enjeux qui a, fut un temps, provoqué dans l'esprit de certains politiques une mécompréhension grave du système pénal, les lois pénales n'ayant plus été comprises comme des affirmations de la société disant le degré de son refus en face de tel ou tel acte, autrement dit les instruments de mesure, mais le dispositif destiné à supprimer la délinquance et la criminalité. Comme on ne peut pas supprimer le passé, les lois pénales se sont multipliées. Il y a une profusion de lois absolument délirantes à un moment donné, au point que les juges ne pouvaient plus être au courant de ce qui était produit, parce qu'on écrivait les lois, si j'ose dire, au futur antérieur. Il s'agissait d'aller rendre impossible dans le futur ce qui avait été possible dans le passé. Il y a une dame députée qui un jour a dit à l'Assemblée nationale, au rapporteur d'une loi pénale, promettez-moi qu'il n'y aura plus de jeunes filles assassinées dans le RERD et je vote votre loi. C'est extraordinaire, hein? La loi est devenue sacrement, elle accomplit ce qu'elle signifie. Naturellement, ce genre de dérive occulte le sens de l'abolition de la peine de mort, que je traduirai plutôt du double point de vue de l'empathie et de l'extériorité. Jamais plus nous ne ferons subir à quelqu'un l'attente de son exécution, parce que nous le garderons avec nous, ce qui ne veut pas dire cependant que nous ne le ferons pas disparaître dans un repli de notre espace, par exemple l'espace carcéral. Le deuxième témoin de l'évolution des principes fondamentaux de la justice pénale est l'invention par la loi du 17 juillet 2014, la loi dite Taubira, d'une nouvelle peine, la contrainte pénale. Il s'agit d'une peine inspirée des peines de probation existant ailleurs, mais pensée tout à fait dans les termes politiques qui nous sont familiers. C'est ça la grande... C'est pas un truc anglo-saxon. C'est pas l'approbation à l'anglo-saxon, c'est très différent. C'est une peine, une contrainte pénale, dont son auteur, Pierre-Victor Tournier, auquel je faisais allusion tout à l'heure, aurait voulu qu'elle s'appelle contrainte pénale faite dans la communauté, ce qui correspond à quelque chose de très précis et de très intéressant, mais que le vocabulaire a piégé, certains voulant y voir une référence à on ne sait quel communautarisme, ce qui dans le cas était vraiment de l'ordre du comique. L'esprit n'est pas du tout celui de la communauté entourant quelqu'un. L'essentiel est dit avec précision par chacun des termes, il s'agit d'une contrainte, c'est-à-dire d'un ensemble d'obligations et d'interdits, garantis par la puissance souveraine, l'État, relevant donc de la transcendance politique, de l'objectif, de ce qui n'appartient ni à toi, ni à moi. Cette contrainte est une contrainte pénale. En effet, la puissance souveraine, la transcendance politique objective, l'État, nous soumet constamment tous à des obligations et des interdits qui, comme tels, sont bien sûr des restrictions de nos libertés, mais nullement conçues comme des peines. Ce qui fait le pénal dans la contrainte, ce n'est donc pas la souffrance comme telle, même si toute obligation entraîne des souffrances, même des obligations qui ne sont pas du tout pénales. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, pour de bon, à ce que représentait une journée d'école pour un enfant, en termes de peine inouïe, avec séquestration, interdiction de parler, interdiction de faire ce que l'on veut, séparation avec les parents. Mais c'est inimaginable. J'en garde un souvenir horrifique. Je me suis évadé. Le premier jour, j'ai été rattrapé et je n'en suis plus jamais sorti. Donc ce n'est pas la souffrance, c'est l'origine de la contrainte, la motivation de la contrainte qui fait le pénal. Comme toute punition, elle est bien la construction artificielle de conséquences réelles en réponse à un acte jugé répréhensible, autrement dit Durkheim est sauf. C'est bien la peine qui apprend que l'acte est répréhensible. Une contrainte pénale faite dans la communauté. C'est peut-être le trait le plus essentiel, cette référence à la communauté, et par quatre raisons. En principe, la loi a un peu écorné le principe. En principe, il s'agit d'une peine qui est exécutée en liberté, si j'ose dire, une peine sans aucune référence à la prison. Aucune. Dans l'esprit, ça n'a pas été tout à fait le cas, dans l'esprit, si les obligations imposées n'étaient pas respectées, eh bien il y avait un nouveau jugement. Mais on ne passait pas de la contrainte pénale à la prison. Autrement dit, et c'est le deuxième trait, l'échelle des peines se trouve restaurée et rendue cohérente. Il y a en gros 3 degrés de gravité pénale, l'infraction, le délit et le crime. Ce trait pienne avec 2 pattes, l'amende et la prison. Il en a bien maintenant 3, et la prison peut ou pourrait tenir le rôle de peine extraordinaire à la hauteur d'un refus vraiment absolu. Il est clair que nous parlons en termes d'essence et non pas en termes de ce qui se fait. Du même mouvement, la prison peut assumer la fonction de peine de dernier recours, de peine la plus grave, de peine extraordinaire. Et enfin, dans la communauté, ne vise pas une mise à l'écart, la constitution d'un espace autre, mais figure bien le même espace politique. Alors je crois que nous atteignons quelque chose de vraiment neuf. Nous sommes toujours dans une communauté. Dire par exemple que les personnes détenues sont sans relations sociales, ou retirer les relations sociales, c'est une absurdité. Il y a des relations sociales en prison, elles ne sont peut-être pas tout à fait celles que l'on souhaiterait, mais Elles existent. Ce n'est pas celle qu'on souhaite, encore que les sociétés ne fassent jamais rien en vain comme la nature chez Aristote. Donc il doit y avoir quelques raisons. Et ici, la communauté dont il s'agit, c'est la communauté politique dans son ensemble. C'est ça le point le plus remarquable. Sans autre stratification, sans autre délimitation que celles qui se produisent immanquablement dans une société. Il n'y a pas un espace spécifique. S'il revient pour nous à creuser suffisamment loin pour retrouver la base, la racine de cette communauté, afin d'y comprendre ce que peut y accomplir la contrainte pénale. Pour faire retour à Hegel et écouter à nouveau l'immense leçon donnée à propos du cas limite de la peine de mort, la sanction la plus punitive qui soit n'est pas punitive au sens de la souffrance infligée, mais en tant qu'alors même, le condamné est producteur de droit. Il faut donc que l'on parvienne à déterminer quand nous produisons du droit, c'est-à-dire quand nous produisons du politique, quand et par quels actes, dans quelles situations, sommes-nous producteurs de réalité politique? Il semble possible de répondre lorsque nos relations avec nos contemporains peuvent être qualifiées d'objectives au sens donné tout à l'heure. Et par là, il faut entendre bien sûr objectives par opposition à des relations subjectives, marquées par la distorsion de nos intérêts, de nos passions et de nos émotions. Mais la véritable pierre de touche de cet engendrement du politique, de cette production de l'objectivité, elle se trouve lorsque la communauté politique prend conscience de son unité sous la forme des conflits et des tensions qui la parcourent. Et par conséquent, la seule attitude que nous puissions avoir à l'égard des infracteurs, le point de départ, ça peut paraître paradoxal, c'est « Mais que savez-vous que nous ne savons pas ? Quel est votre savoir spécifique engendré dans la transgression et comment allons-nous pouvoir la réinvestir tout autrement ?» Alors, il y a quelques exemples très remarquables de ce réinvestissement. Ce qu'a fait la directrice, comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Dassonville, j'ai oublié son prénom. La directrice du théâtre de la Villette, qui met en scène Homère, elle l'a fait jouer par des personnes condamnées. Agamemnon, avec l'accent des banlieues, Agamemnon jouant le crime, jouant ce qui va lui arriver, alors même que lui aussi sait ce que ça veut dire, ce que ça va signifier pour Clytemnestre, ce qu'elle va faire. Donc les fondements de la justice pénale ont bougé de sorte qu'ils ont au moins changé en eux-mêmes la définition des contours de la communauté politique. Reste donc le dernier moment, celui d'une ouverture vers la justice restaurative. Elle est présente dans la loi du 17 juillet, à l'article 18, de manière extrêmement discrète et peut-être pas très conforme à l'essence de ce qu'est la justice restaurative. Ce que j'en sais provient de Howard Zaher, qui a été traduit en français, La justice restaurative, en 2012. Le texte est de 2002. provient des États-Unis, de milieux chrétiens protestants et anabaptistes. Et la justice restaurative se présente elle-même d'une manière très ambiguë, à la fois comme un complément de la justice pénale, elle se dit non concurrente avec elle, et comme un moyen de sortir de l'impasse constituée par la justice pénale, c'est-à-dire qu'elle est aussi, et en même temps, et du même mouvement, contradictoirement, carrément en guerre contre elle. Elle est née de la prise de conscience, effectivement, de l'insuffisance de la justice pénale occidentale contemporaine, et elle propose, dans son véritable fond, vraiment un changement de paradigme. La justice pénale, telle que nous la connaissons, dit la justice restaurative, méconnaît essentiellement les besoins, aussi bien des victimes que des infracteurs, méconnaissance des besoins, qui provoque même une aggravation des blessures faites à la société, au lieu de la réconcilier avec elle-même. Elle se pense comme portant secours aux insuffisances de la justice pénale en se fondant sur des pratiques déjà existantes, comme la régulation des délits dans les sociétés archaïques ou ce qui se passe dans la justice des mineurs. Mais puisqu'elle a mis en son centre la prise en considération des besoins et non la prise en considération du prix à payer, quelles blessures ont été infligées et non pas qu'est-ce que cela vaut, elle est très fortement rattachée à la notion de communauté. Il y a d'ailleurs une reconnaissance tout à fait explicite et assez émouvante de la part de Hoerzer, du point de vue, il dit je parle du point de vue de ma communauté, mais si ça se trouve, ce que j'ai n'est pas valable pour une autre communauté. Mais enfin, il dit, et cela me paraît important, que la justice restaurative n'est pas destinée à la réconciliation et au pardon, pas une médiation, pas pour prévenir la récidive, pas une procédure, un schéma ou un protocole, qu'elle n'est pas destinée en premier lieu à régler les infractions mineures ou de primo-infracteurs, autrement dit, elle sort de tous les schémas déjà constitués pour penser la justice pénale et sa réforme. La notion de besoin est la notion centrale et capitale, parce qu'elle permet d'envelopper aussi les victimes, la communauté, et pas seulement le gouvernement et l'infracteur. Le crime ne dit rien de la victime, alors que les victimes ont des besoins spécifiques. Les infracteurs ont été mis en position d'être sur la défensive et de nier leurs responsabilités, alors qu'ils ont besoin de sortir des stéréotypes à la fois externes produisant le déni et internes produisant la honte. Et la communauté devrait être impliquée à s'impliquer de telle sorte que ces liens se renforcent au lieu de se distendre. Autrement dit, il y a bien là quelque chose qui assume tout autrement la fonction même de la peine dans sa forme la plus archaïque de constitution de la communauté, mais non plus dans le fait de chasser au désert, mais bien au contraire, en elle. Cependant, la justice restaurative se construit autour d'une anthropologie et non d'une politique, puisque son principe est que, originairement, nous sommes en relation de paix les uns avec les autres, le crime et le délit venant altérer ce lien, créant des obligations, dont la première est la réparation. D'où une opposition terme à terme, le crime est une violation de la loi de l'État. Le crime est une violation de personnes et de liens interpersonnels. Les violations créent une culpabilité. Et contre les violations créent des obligations. La justice exige que l'État établisse la faute, et impose une rétribution. La justice restaurative fait participer les victimes, les infracteurs et les membres de la communauté afin de réparer les torts subis. Résultat cherché, les auteurs doivent être traités comme ils l'ont mérité. Et en face, la satisfaction des besoins des victimes et la responsabilisation des infracteurs dans la réparation. Les questions ne sont pas les mêmes, La justice pénale demande quelle loi a été transgressée par qui et que mérite l'infracteur. La justice restaurative, qui a subi des torts, quels sont leurs besoins, à quelle personne revient l'obligation de les satisfaire. Je trouve cette approche extrêmement intéressante. Je pense qu'elle est pleine d'avenir, mais qu'elle ne peut pas poursuivre sa carrière en se pensant simplement comme un complément de la justice pénale, qu'en réalité elle exècre. Il importe de lui donner une dimension politique qu'elle est d'ailleurs toute prête à accueillir. Qu'apporterait la justice restaurative? Qu'apporterait la justice pénale? Le politique, mais encore la possibilité, il faudrait instaurer dans la justice restaurative, la possibilité de liens non interpersonnels, ou encore cette exigence fondamentale du politique, nous formerons une communauté d'autant plus forte, profonde, et même on peut dire aimante, que nous accepterons de nous perdre de vue les uns les autres. Et ça, la justice restaurative n'est pas encore capable de le faire. De poser les bases sur lesquelles nous pourrions nous perdre de vue les uns les autres, puisqu'elle pense intégralement à l'intérieur de la communauté même. Pour le dire en bref, historiquement, je ne sais pas comment cela va se passer, mais philosophiquement et pour le moment, j'en attends plus de la contrainte pénale faite dans la communauté que de la justice restaurative, encore que de faire basculer les besoins au centre de la compréhension de la justice pénale marque vraiment un changement profond, vraiment un changement intéressant. En guise de conclusion, je crois qu'il est possible de dire que, premièrement, oui, les fondements de la justice pénale changent, bougent, mais que, deuxièmement, ils conservent, comme il se doit, leur essence. Et que, troisièmement, il n'est pas impossible de déterminer le sens de ce mouvement, la modification de l'extériorité, la suppression de l'extériorité sans produire les effets délétères qu'une telle suppression est censée produire ou provoquer. Nous sommes devenus capables de cela, d'une communauté sans extériorité, mais ne s'effondrant pas pour autant. Voilà, ça c'est ma conclusion, et j'ai encore deux conclusions. Ce mouvement de la suppression de l'extériorité, c'est celui de l'universalité, qui consiste à faire sauter les frontières, parce que nous sommes devenus capables de sauver mieux qu'elle ne le faisait, ce qu'elle protégeait. Pour moi, et dans le lieu où nous sommes, c'est la mise en œuvre de Galates 3:28. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme. Ce qui ne supprime ni les juifs, ni les grecs, ni les hommes, ni les femmes. Ce qui ne supprime pas la structuration de la société, mais en permet la transformation. Je crois que, en ce sens, nous pouvons dire il n'y a ni homme juste, ni criminel, sans aucune confusion. Bien au contraire. Voilà, ça j'en suis intimement persuadé. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire une règle de conduite pour poser une politique pénale? Absolument pas. Absolument pas, parce que c'est même pas, j'oserais même pas dire que c'est une idée directrice. C'est la constatation d'un mouvement qui me semble d'une profondeur extrême, mais pour que s'accomplisse cette suppression des limites, cette universalité sans extériorité, il faut absolument un événement fondateur, il faut quelque chose. Il faut un concept nouveau, il faut des pratiques nouvelles, il faut des événements qui fassent date. Voyez d'ailleurs, en ce sens, le très beau texte de Badiou sur Paul, justement. l'invention d'universalité. Et il remarque très bien que si Paul dit il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, c'est qu'il y a un événement qui pour Paul est la résurrection et le baptême. Mais il faut un événement. Il faut quelque chose qui transforme la réalité. Et ce n'est pas simplement le souci de vouloir faire de l'universel qui pourra le produire. C'est autre chose. Des choses comme la contrainte pénale, comme la justice restaurative, comme l'abolition de la peine de mort vont dans ce sens, évidemment. Mais ce mouvement que j'ai essayé de décrire est encore bien plus général, bien plus ample, bien plus profond. Je pense que ce que nous vivons en ce moment, à savoir cette grande remise en chantier de notre rapport à ce qu'on appelait la nature, cette nouvelle manière de concevoir l'écologie, participe de ce mouvement. Il faut lire Face à Gaïa de Bruno Latour. Il n'y a plus homme, il n'y a plus ni humain ni animaux. Il faut aller jusque-là. Nous pouvons le dire et ce n'est à aucun degré une confusion entre les hommes et les animaux. Alors ce serait un tout autre débat, mais je peux vous le montrer. Je peux vous montrer que je peux dire il y a une. Parce qu'il y a un privilège de l'homme qui est extraordinaire, qui est justement de dire il n'y a ni homme ni animaux, mais il y a une communauté, c'est même pas une communauté, cet ensemble que Bruno Latour appelle Gaïa, et la centration, le privilège incomparable, insubstituable de l'homme, c'est de pouvoir dire, mais les animaux, vous savez, nous pouvons les accueillir, non pas comme l'extériorité, mais comme appartenant au même ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre les problèmes si l'on ne prend pas ensemble l'intégralité de la réalité. Mais nous ne pouvons pas décréter que nous prenons la totalité sans avoir les moyens conceptuels d'y sauvegarder ce que le clivage permettait. Ça, c'est absolument nécessaire et c'est la vraie tâche. Mais elle est extrêmement complexe. C'est la grande leçon de Karl Marx, et ce qu'il appelait son matérialisme, que d'avoir dit qu'il était impossible de résoudre un problème, une question quelconque, si on ne prenait pas l'ensemble de la réalité. Et dans la réalité, il y a aussi bien ce que je pense comme enseignant à la faculté de philosophie du Centre Sèvres que ce que j'ai mangé ce matin. L'homme, en jouant sur l'allemand, l'homme est ce qu'il mange, dit-il. Ça veut dire, mais vous ne pouvez pas exclure un seul moment de la réalité, il faut prendre toute la réalité. Et il a essayé de prendre toute la réalité. Et très significativement, il a une extériorité, explicitement désignée, la nature. Eh bien, il faut que nous fassions un pas de plus et que nous prenions dans cet ensemble jusqu'à la nature elle-même. Alors évidemment, ça dépasse infiniment le cadre qui m'était imparti de savoir si les fondements de la justice pénale avaient bougé. Mais c'est bien dans le même ensemble que les choses se trouvent. C'est bien le même mouvement d'une universalité extrêmement nouvelle et en même temps très ancienne que celui de faire sauter les extériorités pour les remplacer par des clivages internes non excluants. Miaou, miaou. Ce qui en chat veut dire j'ai fini.
Très grand merci Alain, tu nous as bien montré l'énigme que représente la punition et le fond archaïque de la punition. Tu nous as aussi bien éclairé sur les évolutions justice pénale et très particulièrement les évolutions récentes, bien sûr l'abolition de la peine de mort et aussi la contrainte pénale avec tout ce que ça implique et en élargissant, en faisant apparaître à quel point c'était une manière de penser à nouveau frais ce qu'est l'universalité. Je suppose que, surtout vers la fin, il me semble qu'il était peut-être un peu rapide et élusif, et donc peut-être nous avons besoin de comprendre davantage ce que tu nous voulais nous dire, enfin en tout cas que ça peut peut-être susciter un certain nombre de questions, pour que tu explicites un peu la portée de tes affirmations. En tout cas, je donne la parole volontiers à la salle pour que nous puissions poser des questions ou réagir à ce qu'Alain Cugnot vient de nous dire. Et
ce qui, votre question, quand je tourne les pages en lisant mon texte, je me suis dit, mais tu as oublié de dire ce que c'était. Donc, je comprends tout à fait que vous la posiez. La contrainte pénale, elle est l'obligation faite à un condamné de respecter un certain nombre de procédures, enfin, d'obligations et d'interdictions. Oui, bien sûr, mais tout à fait, c'est pourquoi elle est vraiment, ça c'est génial que vous disiez ça, parce que c'est exactement ça. C'est vrai de tout citoyen, seulement les contraintes que vous subissez, vous ne les subissez pas au nom d'une contrainte pénale. Ce n'est pas la puissance punitive qui vous les a imposées. Et donc les obligations que vous allez subir, sous la contrainte pénale, cet ensemble d'obligations, d'interdictions, par exemple de vous rendre dans certains lieux ou d'approcher certaines personnes, cet ensemble d'obligations et de contraintes, elle est la mise en œuvre, y compris d'ailleurs des mesures d'accompagnement extrêmement soutenues qui sont prévues, elle est la mise en œuvre d'une peine qui n'a pas d'autre configuration que ce qu'on vous impose, en fait, de l'extérieur, sans... Alors, le seul ennui qu'on a avec la contrainte pénale, c'est que vous ne pouvez pas vous évader. Ça, c'est dommage. C'est tout à fait dommage. Mais, à part ça, alors ça c'est fondamental. On ne vous demande pas d'intérioriser la peine que vous subissez. On vous oblige. On vous contraint à respecter ses obligations et ses interdictions. Je ne sais pas si je suis très clair. Non.
Si je prends un exemple, à mon avis, ça sera plus clair. Si je prends un exemple un peu spécifique.
Ça peut être l'obligation de suivre des soins. Ça peut être une injonction de soins. Ça peut être une obligation d'avoir un certain nombre de formations. Ça peut être l'interdiction d'approcher des lieux où il y a des enfants, par exemple. Ça peut être... C'est ce genre de choses. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est que c'est une contrainte. Ça vient de l'extérieur. Et je dis ça parce que à aucun degré, la contrainte pénale, la sanction pénale, ne doit exiger de la personne qui l'a subie qu'il l'intériorise. C'est une perversion totale que de demander à la personne condamnée qu'elle soit d'accord avec sa peine. Il y a une chose qu'on lui impose, c'est sa peine. On lui impose parce que l'on pense que c'est la meilleure manière de faire en sorte qu'on puisse entrer en relation avec lui, de telle sorte que le savoir qu'il a, la personne qu'il est, puisse à nouveau être, enfin, puisse autrement plutôt, être productrice de droit. Vous savez, moi c'est une de mes marottes, je me demande si j'ai jamais parlé de ce genre de choses sans y faire allusion. Il y avait un article du code pénal qui définissait l'évasion punissable. Et punissable celui qui se soustrait à la garde par violence, corruption ou effraction. Vous aviez le droit de vous évader. Vous aviez le droit de vous évader. On peut presque dire le devoir. Je dis ça parce que, parlant avec une directrice d'établissement, qui disait que son grand souci, c'était que les détenus parviennent à s'approprier l'espace dans lequel ils vivaient, et qui trouvait que toute initiative comme un jardin ou des choses était vraiment de bonnes initiatives. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous considérez l'évasion comme un mode d'appropriation de l'espace? Elle m'a répondu oui. Parce qu'au moins, il regarde le type qui veut s'évader, il regarde l'espace dans lequel il est, il regarde par où il pourrait s'échapper. Donc il y a dans ce respect du refus du condamné de subir sa peine, il y a quelque chose de très important qui a été malheureusement supprimé. L'article a gardé le même numéro, 434, je ne sais plus très bien la suite, mais qui commence par l'évasion est punissable. Et puis après, il y a les trois trucs, mais qui deviennent circonstances aggravantes. C'est gravissime, ce changement. Parce qu'il est essentiel. Enfin, c'est ce que dit Hegel. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un à éduquer. Vous avez quelqu'un avec qui il va falloir que vous produisiez du droit. Donc, contraignez-le. Il n'y a aucun problème. L'infraction, vous ne pourrez pas vous passer de la punition. Mais en le contraignant, faites en sorte que la manière dont vous le contraindrez soit productrice de droit, ce qui, à mon sens, veut dire, eh bien, entrer en relation de culture profonde avec lui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, la justice restaurative, c'est un mouvement donc qui est né dans les pays anglo-saxons et qui pense donc la justice en termes de réparation des besoins, d'où le des besoins de tout le monde, des trois parties prenantes, la victime, évidemment, l'infracteur. C'est moins évident, mais il a des besoins. Et la communauté politique, la société. Enfin, quand je dis politique, j'ai fait un pas de plus que la justice restaurative. La communauté dans laquelle il vit. Et ces trois instances ont intérêt, d'une manière ou d'une autre, à débattre de telle sorte que les besoins soient identifiés, soient satisfaits. Avec la constitution d'obligations pour les uns comme pour les autres. Et ça, c'est, je trouve que c'est quelque chose de très sain. Après, pour reprendre ce que je disais, anthropologiquement ça tient, sociologiquement ça tient, politiquement ça ne tient pas bien. Ça ne tient pas bien parce que ce sont des relations interpersonnelles. Et nous n'avons pas que des relations interpersonnelles. Il faut aussi que la justice ait cette extériorité et que nous ayons cette possibilité d'être perdus de vue, comme je le disais. Voilà. Mais, en son fond, la justice restaurative me paraît être une ressource très très intéressante. Hein, très intéressante. Alors, bien souvent on pense que la justice restaurative se résume à mettre en présence des infracteurs et des victimes, directement, mais des infracteurs de même genre, afin qu'ils se rendent compte, les uns et les autres, qu'ils sont des êtres humains, et qu'ils sortent de l'imaginaire dans lequel ils se tiennent, les uns et les autres, que les infracteurs se rendent compte que les victimes sont des êtres humains et que les victimes se rendent compte que les infracteurs sont aussi des êtres humains. Mais ça ne se réduit pas à ça. Ça ne se réduit pas à ça. Et comme le dit Zer lui-même, c'est pas une thérapie, c'est autre chose. C'est vraiment la mise en œuvre de quelque chose qui est fondamental et qui est cette mise en relation, cette manière dont nous pouvons nous rapporter les uns aux autres, de telle sorte que nous puissions faire société les uns avec les autres, à partir d'une sorte d'hospitalité qui est fondée sur le « mais qu'avez-vous compris que je n'ai pas compris ?» Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé à l'acte ? Non pas psychologiquement, non pas dans votre vie personnelle, de telle sorte que plus jamais vous ne recommenciez, mais qu'est-ce qui existe dans notre société qui fait que vous ayez pu passer à l'acte ? Qu'est-ce qu'on doit corriger ? C'est tout l'inverse, c'est une responsabilisation. Il faudrait quand même pas dire que expliquer, c'est commencer à justifier. Comme disait je ne sais plus quel auteur contemporain, dont le nom m'échappe. C'est l'inverse, c'est vraiment la responsabilisation. C'est vraiment la responsabilisation, et la responsabilisation consiste à prendre quelqu'un et à lui dire, non pas qu'as-tu fait, mais et maintenant. Alors là aussi, c'est une de mes marottes, je suis désolé pour ceux qui vont me réentendre là-dessus une fois encore, mais j'étais extrêmement impressionné par un psychanalyste lyonnais qui s'appelle Claude Maritain, et qui avait comme passion de grands criminels en prison, et qui disait que la première chose qu'il leur disait, c'était « à l'époque, vous ne pouviez pas faire autrement ». Ah, oh, mon Dieu, déresponsabilisation, mais non, il fallait leur dire, mais vous êtes des êtres libres. Non, dit-il, vous les ramenez en enfer à ce moment-là, parce que ça y est, l'acte est commis. Mais si vous dites à l'époque, vous ne pouviez pas faire autrement, il y a une porte qui se ferme, et aussitôt, une question qui surgit, et maintenant. Alors c'est ça la vraie constitution de la production du droit. Et ça n'est pas du tout être d'accord avec l'acte qui a été commis. Ça n'est même pas dire vous aviez des raisons de le faire. Parce qu'on peut dire, mais c'est votre culpabilité même. Et ça fait écho à une autre chose qui me paraît fondamentale dans ce domaine. C'est que, contrairement à ce que l'on dit, la reconnaissance du crime ou du délit, la reconnaissance de l'acte, ça n'est pas un préalable à la possibilité de s'en sortir. C'est le résultat. Il faut être devenu un autre pour pouvoir se reconnaître comme coupable, autrement que d'une manière purement verbale, parce que votre avocat vous l'a dit, ou d'une manière dramatique, si vous vous reconnaissez comme... On est incapable de se reconnaître comme coupable. Si on se reconnaît comme coupable, on implose. C'est le suicide. Donc il y a une phase de déni chez les criminels. Mais ils ne sont pas en train de mentir, ils sont en train de sauver leur peau. Et il faut que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, leur dise « à l'époque, vous ne pouviez pas faire autrement », pour que, devenant un autre, ils puissent dire « oui, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire ». Comme m'a dit mon boucher quand j'ai sursauté en voyant ses tatouages, il m'a dit « eh oui, j'ai fait des conneries ». Et ça voulait dire, eh oui, vous m'avez reconnu, oui, j'ai fait de la tôle. Et donc, il y a ce déplacement qui est quelque chose de fondamental, qu'il faut parvenir à faire, et que l'on ne fera pas en se mettant dans la tête des gens, mais en se mettant en face d'eux. Avec cette éternelle question, mais qu'avez-vous compris que je n'ai pas compris, qu'avez-vous trop bien compris ? Là aussi, c'est des choses que j'ai souvent dites à des magistrats quand j'avais justement des conférences à l'école de la magistrature, de dire que le criminel n'est pas quelqu'un qui n'a pas, ou l'infracteur n'est pas quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, c'est quelqu'un qui a trop bien compris quelque chose. Et comme le cancre. Le cancre n'est pas quelqu'un de bête qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. C'est quelqu'un qui a trop bien compris comment fonctionnaient les adultes et qui ne veut pas entrer dans leur monde. Il dit non, moi, ce jeu-là, vos vanités, vos trucs, là, moi, je n'entre pas là-dedans. Alors, il ne fait pas, il ne travaille pas, et on dit, mais faites-lui peur, comme on disait à une réunion. Les réunions parents-prof, c'est quand même quelque chose de terrible, même quand on est prof. Faites-lui peur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à. Oui.
Alors, il y a deux, une question, il y a monsieur, trois... derrière au fond, a déjà posé la question depuis un certain temps. Oui, monsieur ? Oui.
Ah oui, je te remercie, mais je suis bien d'accord avec toi. Et ce n'est pas seulement le point de vue du juriste par opposition au point de vue du philosophe, c'est que tu éclaires un tout autre aspect de l'évolution de la justice pénale qui est non pas une avancée, mais une régression. Et le mouvement que j'ai décrit, et qui me paraît être un mouvement extrêmement bon, extrêmement intéressant, extrêmement politique, Il se croise comme les vagues quand il y a un clapot. C'est croisé par un tout autre mouvement qui va exactement dans le sens inverse et qui élargit le champ même de la justice pénale et qui bascule mais à toute vitesse du côté de la répression. Et ça, c'est vraiment l'autre aspect. Enfin, c'est le et qu'est-ce qui va se passer maintenant et qu'est-ce qui va l'emporter, ça, personne ne peut le dire. Hein. Moi, j'ai été plutôt sensible. Enfin, j'ai essayé ce soir d'éclairer plutôt l'aspect optimiste avec ce qui me paraît un mouvement extrêmement jésuite qui consiste à dire mais qu'est-ce qui cherche passage et comment l'accompagner ? Ça me paraît être vraiment le truc jésuite, ce que j'ai compris de mes amis jésuites. Et il y a quelque chose qui cherche passage et qui est ce principe d'universalisation extrêmement exigeant, extrêmement compliqué, mais quel bonheur de constater qu'il est présent. Et il est présent dans une réalité qui, en même temps, du même pas et avec le même enthousiasme, va rigoureusement dans l'autre sens. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Il y avait deux autres questions qui se sont manifestées.
Oui, il y avait Monique. Mais je dirais deux ou trois choses. La première, c'est que il n'est pas vrai qu'il faille choisir son camp entre les infracteurs et les victimes, que les sociétés qui maltraitent les infracteurs ne sont pas tendres du tout pour les victimes. Donc il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que ce dont vous parlez, c'est d'une certaine manière de se comporter de l'opinion. Laquelle à la fois existe et n'existe pas. Enfin, c'est très curieux, l'opinion. C'est extrêmement versatile. Et l'opinion se nourrit effectivement de. Je ne sais pas comment dire, si on dit ça. Enfin, il faudrait trouver un terme pour dire. Une certaine forme de sensibilité. Cette forme de sensibilité, je l'interpréterais en disant que notre société a beaucoup de mal à croire en quelque chose. Beaucoup de mal à croire en quelque chose. Ce qui l'inquiète. Alors il faut qu'elle ait le sentiment et l'évidence de son humanité. Alors heureusement, il y a les victimes. Et les victimes, l'indignation devant ce qui leur est arrivé, l'indignation vertueuse devant ce qui leur est arrivé, devient la preuve que nous sommes humains. Ça, c'est le deuxième point. C'est ce qui explique le passage du parricide à la pédophilie comme plus grand crime. Parce qu'une victime infiniment innocente, enfin, il m'arrive de dire que c'est une sorte de christologie à l'envers. Hein, une victime infiniment innocente. Voilà, alors ça, puisqu'il y a des victimes infiniment innocentes, nous sommes des êtres humains, puisque nous nous indignons. La troisième chose, c'est que l'expérience semblerait montrer que, dans une certaine mesure, plus on s'éloigne du centre de ce qui concerne la victime directement, plus ses réactions émotionnelles sont fortes. Ce qu'on trouve chez les victimes elles-mêmes, et surtout chez les parents des victimes, c'est que ça serve au moins à quelque chose, que cela ne se reproduise pas. Mais ils ne pensent pas tellement à se venger ou à... Ils demandent la reconnaissance. Autrement dit, c'est vrai qu'ils demandent le maximum de la peine. Mais si le maximum de la peine est de 5 ans et non pas de 30 ans, d'une certaine façon, ils se trouvent satisfaits. Et plus on s'éloigne de cet épicentre, plus on trouve des gens qui, au contraire, en remettent sur leur déchaînement contre les infracteurs. Alors ça, c'est très bien analysé par Nietzsche dans la généalogie de la morale. Il dit que c'est la manière dont les porcs célèbrent la vertu. Enfin, l'indignation vertueuse est une participation à ce qui nous indigne. Et celui qui s'indigne tellement, mais tellement, de crimes sexuels, je m'interroge moi-même sur le rapport qu'il a lui-même à la sexualité, puisque ça l'intéresse tellement. Donc, ces réactions ultra-émotives, elles existent, elles concernent une partie de la communauté politique, qui est celle de l'opinion, largement alimentée par... on ne va pas faire le procès des médias, mais enfin quand même, il y a une manière de raconter les choses dans les médias qui est parfois impressionnante. Les propos des... Moi j'ai entendu, enfin je ne vais pas encore raconter cette histoire, mais j'ai entendu les propos de quelqu'un qui disait ce que ce jeune homme a fait a brisé la vie d'un de nos collègues, mais probablement la sienne aussi. Et je voudrais qu'ils en sortent. Ça a été traduit par l'indignation des gendarmes devant la faiblesse de la peine qui avait été infligée à celui qui avait trucidé, escagassé un gendarme. Donc, mais c'était tellement évident pour les oreilles de journalistes que puisque vous êtes gendarme, vous ne pouvez que vous indigner. Le nombre de fois où dans les colloques aussi vous dites un truc, puis vous voyez quelqu'un qui se lève et qui dit « je ne peux pas laisser dire ça », qui répète ce que vous avez dit. Mais comme vous étiez prof, par exemple, il a compris l'inverse de ce que vous disiez. Donc, donc, l'information fonctionne comme ça. Hein. C'est formidable, non seulement la transformation de la réalité par l'information elle-même, mais la manière dont les personnes perçoivent les informations qu'on leur donne. Et alors, c'est vrai, ça entre dans ce mélange, dans cette manière de surinvestir les victimes, avec ce qui est où on leur demande finalement de rester des victimes pour célébrer c'est leur office. Hein, Tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais vraiment complètement. Et je crois que c'est un des traits pervers de notre société que de figer ainsi, et que Internet n'y est pas pour rien. On peut vous ressortir ce que vous avez fait quand vous aviez 17 ans alors que vous en avez 54, et comme si rien n'avait bougé. Enfin, vous êtes devenu PDG d'une entreprise extrêmement sérieuse, et on vous montre dansant tout nu à 17 ans quand vous étiez bourré. Et ce qui aurait dû disparaître dans le passé est maintenu comme une sorte de présent. Et ça, c'est... Vous avez, ou alors vous avez été dans votre vie politique, vous avez été trotskiste à un moment donné. On peut le prouver. Donc vous êtes toujours trotskiste. Comme si l'évolution était impossible. Et c'est vrai que c'est précisément la négation du politique qui est au contraire quelque chose d'extrêmement fluide et d'extrêmement... Enfin, ça bouge, ça change. Ça n'arrête pas de rejouer les mêmes choses, mais différemment. Et c'est ce que j'ai trouvé moins intéressant dans la loi Taubira, c'est que on voit les principes mêmes de la justice pénale à la fois absolument respectés et rejoués, mais tout autrement. Et ça c'est de la politique.
Vous aviez une question, je crois, non ?
Comprendre. Et je pense qu'effectivement, la notion de communauté est en train d'évoluer très profondément. Et que, c'est occulté par le communautarisme, hein, qui est une calamité, mais on est en train, je trouve, que conformément à ce qu'écrit Walter dans Sphère de justice, il y a une intelligence collective, il y a une intelligence de la communauté qui est extrêmement profonde et qui dépasse tous les calculs d'intérêt, même y compris l'intérêt général, et qui décide ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il prend cet exemple admirable, les Grecs de l'Antiquité n'ont pas dépensé, mais 2 drachmes pour l'éducation des enfants. Et des fortunes pour le théâtre. Parce qu'ils avaient décidé, et personne ne peut leur donner tort, que le théâtre était une chose politiquement essentielle. En revanche, dit-il, les communautés juives d'Europe centrale avaient tout misé sur l'éducation des enfants et ne savaient probablement pas que le théâtre existait. Est-ce qu'on peut leur donner tort ? Non. Et donc, il y a une intelligence qui est une intelligence qui, je crois, qu'on est en train de l'étudier, avec la notion de bien commun, avec la notion de commun, avec une toute autre manière d'aborder la réalité à la fois, une écologie, moi je dirais, volontiers, hein, qui est en train d'avancer. Et je pense que... Je ne pense pas que nous puissions faire quelque chose d'autre, enfin... Que ça, que l'accompagner, et y être attentif, et surtout ne pas le dénigrer. Enfin, nous n'avons rien à gagner au dénigrement de l'administré, parce que les deux témoignent de cette suppression des extériorités. Le crime contre l'humanité suppose d'abord qu'il y a une humanité, et que la guerre ne permet pas tout. Le principe interne de la guerre, c'est la destruction de l'ennemi, voire Clausewitz, eh bien non, on ne peut pas, on ne veut pas s'en tenir à cela, et les relations conflictuelles ne peuvent plus être pensées seulement sous la catégorie d'ennemis. J'oserais me vanter d'avoir, je pense en 1949, dit à mes parents, et ils avaient été extrêmement surpris, ils ne m'avaient pas cru. Je leur ai dit, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est la première guerre civile mondiale. Et je disais ça parce qu'il ne s'agissait pas de conflit entre États, mais il s'agissait d'engagement philosophique. Il y avait des miliciens dans le village limousin où j'étais. Il y avait des résistants. Et je percevais bien, j'avais bien perçu, que ce qui les opposait n'était pas de même nature que ce qu'on appelle une guerre. Donc je pense qu'il y a cette universalisation de la sensibilité qui fait que non, nous ne mettrons plus personne à l'extérieur. Alors il y a des tentatives pour reconstituer les extériorités, hein, c'est des tentatives extrêmement virulentes. Oui. Oui, bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Ça ne supprime pas ces notions-là, ça les rejoue autrement. Mais même, enfin oui, ce que change, à mon avis, la notion de crime contre l'humanité, c'est de percevoir que ce qui a été lésé, dans certains cas, ça n'est pas seulement une communauté politique, c'est l'humanité elle-même. Et qu'elle a été blessée à sa racine, si j'ose dire. Et que c'est à cet endroit-là qu'il faut traiter la chose, et que ça relève bien de la punition. Ça ne relève pas seulement du politique.
Ah, vous aviez une question, oui?
Ce qui me paraît, je suis optimiste sur les possibilités essentielles de la compréhension du droit. Je ne suis pas optimiste du tout sur certains déploiements dans la réalité. La contrainte pénale est une innovation, à mon avis, très, très géniale. Elle a du mal, vous savez, à s'implanter. Hein. Elle a un mal terrible à s'implanter. Alors, les raisons pour lesquelles elle a du mal à s'implanter, et elles sont multiples, elles sont, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'à la base, elles sont culturelles. Elles sont culturelles. Et que, dans la culture des magistrats, ça n'a pas encore été vraiment intégré. Je sais qu'il y a un certain nombre d'amis magistrats dans la salle, je voudrais rester ami avec eux. Mais, dans cette culture des magistrats, il y a aussi des aspects que de méchante langue pourraient qualifier de corporatistes. Et que de voir augmenter la part donnée au SPIP, au service d'insertion et de probation, ça leur paraît un peu curieux que sur un domaine qui est le leur, des amateurs professionnels, d'accord, mais enfin, à leurs yeux, des amateurs, et une augmentation de leur pouvoir. Donc c'est extrêmement lourd, extrêmement difficile à faire bouger. N'importe quel corps de métier réagit d'une manière terrible dans la reconduction de ce qu'il connaît déjà comme étant la chose du monde la meilleure qui puisse être. Donc, je ne suis pas optimiste au niveau des faits, je suis optimiste au niveau des essences. Mais quand on peut être optimiste au niveau des essences, on peut aussi à la longue avoir quelque espérance du côté des faits.
Monsieur ?
Christian.
Non.
Mais non, c'est une toute autre question. Je te jure que si on retire de ce que tu as dit tout ce qui est absolument conforme à ce que j'ai dit, il ne reste pas grand-chose. Il reste quelques points sur lesquels je peux te répondre. Le premier point, c'est sur la justice de l'Ancien Régime. C'était une justice. C'est pas vrai qu'elle dépendait du roi. Le roi avait la justice réservée et il avait un manteau bleu. Comme roi de France, il avait un manteau rouge. Comme roi de justice, et il remettait son manteau au premier président de la Cour de cassation. C'était la justice déléguée. Et s'il croit que les magistrats étaient simplement au pied de... Il aurait bien été heureux, le roi de France, si les magistrats n'avaient pas été d'un naturel frondeur. Voilà. D'abord, il y a ça. Enfin, si tu veux, la justice de l'Ancien Régime est une justice fondamentalement arbitraire, c'est-à-dire arbitrale, et elle n'est pas sans intérêt. Quant à la justice médiévale, elle est très peu punitive. Donc, voilà. Moi, je suis tout à fait conscient de la Révolution et de l'énorme avancée que représentent les Lumières. Deuxième point, la société, heureusement que la société se décharge de l'exécution des peines, sur un corps de magistrats et sur des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. J'imagine mal le peuple exerçant lui-même, c'est qui me fait peur des fois, hein. Le peuple exerçant lui-même directement l'exécution de la peine, ça s'appelle le lynch. Et je sais bien que tu n'as jamais dit ça, mais dans la logique de ce que tu dis, il y a ça. Voilà. Voilà. Non, c'est pas ça du tout. Quelqu'un aurait-il un revolver à me prêter?
Peut-être si vous voulez bien, je m'excuse de vous interrompre, mais je crois qu'il y a encore une dernière question, il ne nous reste plus que 5 minutes, et donc je voudrais donner la parole au monsieur.
Je suis un peu sûr, je n'ai pas entendu.
Vous pouvez redire plus fort, s'il vous plaît.
Ah, très bien. Mais oui, ça c'est un moment extrêmement important, celui de la médiation pénale, puisqu'il s'agit de, ne pas aller jusqu'au, voilà. Il faut que les choses soient déjà réglées. Il y a des tas de conditions. Mais cette idée de mettre en présence des gens pour qu'ils trouvent un accord. Parce qu'il y a un tiers qui sert de médiateur, comme son nom l'indique, ça, je trouve que c'est vraiment, là aussi, une avancée très, très intéressante. Oui.
Ah, il y a encore une dernière question, oui, allez-y.
Je pense que fondamentalement, dans son essence même, à la fin des fins, la justice a comme but le pardon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le pardon ne se décrète pas. Et que celui qui pardonne, c'est vrai qu'il prend la décision de pardonner. Je crois que surtout, il constate qu'il a pardonné. Parce qu'il peut rétablir des liens. Le fait qu'on ne peut pas décréter le pardon, c'est quelque chose qui politiquement est extrêmement dangereux à manipuler. J'ai souvent raconté que j'avais rencontré une dame algérienne à qui on avait fait obligation de se réconcilier avec son bourreau. C'était quelqu'un de fort important. Et elle pensait qu'elle aurait simplement à lui serrer la main au moment de la réconciliation en Algérie. Et elle a vu avec horreur son bourreau lui tendre une joue en lui disant à une oreille « Ne fais pas la conne » et à l'autre oreille, il lui a dit « On est à la télévision ». Et elle disait que ça l'avait peut-être plus traumatisée que le viol lui-même. Donc le pardon ne se décrète certainement pas. Et ensuite, et enfin, qu'est-ce que c'est que le pardon? Moi, je ne connais pas de meilleure définition que celle donnée par Lévinas, dans Totalité et Infini, avoir un autre destin que le sien. Et tout ce qui est mis en œuvre dans la justice consiste bien, du moins si on en suit le droit fil et ce qui essaye d'émerger, ça consiste bien à dire, vous pouvez avoir un autre destin que le vôtre. Sous certaines conditions, etc. Voilà.
Je crois que sur ces mots très forts, nous allons pouvoir conclure notre soirée. Effectivement, en te remerciant beaucoup. Et je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat stimulant. Et éventuellement, n'hésitez pas à participer aux frais de la soirée. Je vous en remercie.